France Inter. Frédéric Mettezot. Le 6-9.
6h22, l'invité du 6-9 de France Inter. Retour sur l'année 2018 et sur l'année littéraire ce matin. Avec vous, Nicolas Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Auteur de « Leurs enfants après eux », publié chez Actes Sud. Nicolas Mathieu, pour vous, Noël a eu lieu le 7 novembre dernier, quand vous avez reçu le prix Goncourt pour ce livre. Le lendemain, au micro de Léa Salamé sur France Inter, vous aviez parlé de votre incrédulité, votre vertige, la folie qui avait suivi l'obtention de ce Goncourt. On est à peu près un mois et demi après. Vous en êtes où ?
Moi, je suis redescendu sur Terre, mais c'est vrai que ma vie n'est pas encore redevenue comme avant. Je crois qu'elle ne le redeviendra jamais tout à fait. On s'inquiète beaucoup de savoir si moi j'ai changé. Ce qui a changé en tout cas, c'est le regard que les gens portent sur moi. Moi, de ma vie, on m'avait jamais dit « je suis très honoré de vous rencontrer ». Et maintenant, c'est des choses qui se produisent. Donc, c'est un peu à la fois irréel, agréable et très fatigant en même temps.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'interviews à la radio, beaucoup de salons, beaucoup de dédicaces.
Ouais, voilà, on fait un peu le tour de France. On va rencontrer des lecteurs dans plein de librairies. Enfin, il y a beaucoup de sollicitations. Même dire non me prend du temps maintenant.
Ben, vous avez dit oui pour France Inter en tout cas. Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux racontent la vie d'adolescents ou de jeunes adultes des années 90 dans une vallée lorraine désindustrialisée. Donc, ils sont nés en 70, 75, 78. Ils ont aujourd'hui entre 40 et 50 ans. Est-ce que vos héros pourraient être gilets jaunes aujourd'hui ?
Un certain nombre d'entre eux pourraient l'être, ouais. Ils font partie de, pour plusieurs d'entre eux, ouais, davantage de la France des ronds-points que de la France des aéroports, quoi, c'est sûr. Après, il m'est difficile de tirer leur destin de leur vingtaine jusqu'à aujourd'hui, mais ils appartiennent à ces territoires-là, à ces franges de la société. Et puis, ils ont en eux, sur la quatrième de couvre, il y a cette expression pour parler du milieu où ça se passe, c'est la France loin des comptoirs de la mondialisation.
La France du Picon et de Johnny Hallyday, des fêtes foraines et d'Interville.
Et puis surtout, prise entre le déclin et la nostalgie, la décence et la rage. Entre la décence et la rage, ça me semble quand même des mots qui se prêtent bien à ce qui s'est passé ces dernières semaines.
Sur la question des gilets jaunes, il y a une phrase, page 135. Chaque désir induisait une distance, chaque plaisir nécessitait du carburant. C'est très très compliqué, ou alors faut faire des marches à pied interminables. Les gilets jaunes, ça commence aussi par ça.
Ouais, bah, la question du carburant, avant d'être une question économique, c'est une question de mode de vie. C'est-à-dire que dans ces endroits-là, dans ces villes-là, rien n'est possible sans déplacement. Aucun déplacement n'est possible sans carburant. Cette taxe, pour certains, elle a sans doute été vécue comme un coup d'arrêt à certaines possibilités. Il faut prendre sa bagnole pour aller au supermarché, au boulot, déposer les petits à l'école, pour partir en vacances, etc. C'est des gens sans doute qui ont le sentiment que l'horizon n'est pas totalement dégagé. Et qu'en plus, on leur permet d'aller de moins en moins loin. Je pense que c'est ça qui a beaucoup heurté.
Il y a des héros, il y a Anthony, il y a le cousin, il y a Steph, il y a Clémence. Il y a une autre héroïne, c'est cette vallée. C'est quasiment un personnage à part entière, ce territoire. Vous parlez de la vallée, vous parlez du lac, vous parlez des maisons, vous parlez du Luxembourg qui est une espèce d'Eldorado lointain. C'est votre région, hein. Vous êtes né à Épinal, donc c'est à quelques dizaines, centaines de kilomètres de l'endroit que vous décrivez. Ce territoire, c'est aussi votre héros ?
Ouais, il y avait plusieurs ambitions dans ce roman. C'était de dépeindre, de faire la peinture d'une époque, les années 90, de dépeindre un petit monde, c'est-à-dire de haut en bas. C'est cette vallée, ce petit monde. C'est-à-dire qu'on prend la société vraiment dans ses strates les plus modestes et jusqu'en haut, c'est-à-dire les édiles de la ville, les hauts fonctionnaires, enfin voilà, les gens qui gagnent un peu d'argent. Et effectivement,
ceux qui ont des piscines dans le roman.
Voilà, et chemin faisant, il y a aussi l'histoire d'une géographie. C'est-à-dire que cet endroit, c'est aussi des pavillons, une ZUP, des zones résidentielles, un lac qui est au milieu et qui attire tout le monde, et puis des volontés d'échapper belle, soit le travail transfrontalier, vers le Luxembourg. Moi, j'ai un ami qui est graphiste et qui travaille au Luxembourg. Il a une BMW de fonction. Voilà, c'est des choses qui font rêver beaucoup, ouais, dans des endroits où on manque de tout. Et puis l'autre, Échappée Belle, qui est présente en filigrane dans le roman, c'est aussi Paris.
C'est une société, on est au milieu des années 90, enfin 92, 95, 98, une société sans portable et sans Internet.
Oui, alors les gens me font la remarque de temps en temps, parce qu'ils me disent, ce qui est étonnant, c'est que je ne me suis pas aperçu qu'ils n'avaient pas de téléphone. Mais effectivement, tous les rapports sont in real life dans ce roman. Et s'agissant d'adolescents, parce qu'il y a quand même beaucoup d'attention portée au flirt, à l'amour, au désir.
À la drague,
voilà, à nos premiers émois. Je pense qu'effectivement, la grande différence entre aujourd'hui et cette époque, c'est effectivement Internet. La première fois de ma vie que j'ai entendu parler d'Internet, moi j'étais en terminale. C'est dire si j'appartiens déjà à un monde antédiluvien.
Ça me parle aussi.
Et je fais des interventions dans des bahuts, je vais voir des lycéens et je vois bien qu'aujourd'hui leur économie amoureuse a beaucoup changé, s'est beaucoup accéléré et puis est devenue multimédia. C'est-à-dire qu'on s'envoie du son, des images pour le meilleur et pour le pire.
Oui. Et c'est assez rare pour le signaler, et pour tout vous dire, je m'en étais pas rendu compte au début. C'est un roman qui est écrit entièrement au passé, alors qu'il y a une dynamique, un dynamisme dans votre style. Généralement, la dynamique, c'est le présent, l'indicatif, mais là, vous écrivez tout au passé simple et à l'imparfait.
Oui, alors ça, c'est pas rare, mais ce qui est rare, peut-être, c'est qu'on ne s'en rende pas compte. Ce bouquin, ouais, c'est sûr. Non seulement il parle d'un monde qui est révolu, celui des années 90, mais surtout il fait le portrait d'une vallée et d'un monde qui meurt, qui est en train de mourir. C'est celui de la France industrielle. Et l'idée de ce roman, c'était de raconter quelques vies qui débutent dans un monde qui finit. Et avec ce que ça implique d'énergie, de caractère solaire, tout se passe en été pour les gamins, mais aussi... Le deuil, c'est un tombeau pour la classe ouvrière aussi. Donc il y a une mélancolie qui sourd de cette vallée.
Et qui est toujours présente.
Ouais, et puis le passé s'y prête bien, c'est sûr.
Nicolas Mathieu, à votre agenda pour 2019 ?
Ben, ça reste copieux. Hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir encore beaucoup de rencontres dans les librairies, toujours des salons. Et puis pas mal de la grâce du Goncourt... c'est aussi que le roman trouve un immense lectorat en France, mais aussi à l'étranger. Donc je vais aller voir des lecteurs en Allemagne, en Norvège, à droite à gauche.
Un beau planning pour 2019. Merci beaucoup Nicolas Mathieu.
Merci.
Goncourt pour Leurs enfants après eux aux éditions Actes Sud. Merci d'être venu en cette semaine de Noël sur Inter.
Merci à vous.